est 13h. Hey, tout de suite, ma France Week-end version cinéma avec Ségolène Aluni. À samedi prochain.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans 5 minutes avec l'équipe du film Grand Ciel. Damien Bonnard est notre invité en compagnie du réalisateur et de la repéreuse du film. Mais d'abord, l'actualité de ce dimanche avec Benjamin Mathieu.
Bonjour Ségolène, bonjour à tous. Les crimes commis par Dominique Pellicot auraient-ils pu être évités, ainsi que le calvaire de Gisèle Pellicot, sa femme violée par des dizaines d'inconnus après avoir été droguée par son mari. Un rapport de l'inspection générale de la justice jette un doute en raison d'un courrier perdu par la justice. Et Yannick Falt, il est édifiant.
Si une empreinte ADN avait été prise en compte par la justice, l'ancien mari et tortionnaire de Gisèle Pellicot aurait pu être confondu 14 ans avant le procès. 30 juillet 2010, Dominique Pellicot est surpris en train de filmer sous les jupes de clientes dans un supermarché de Seine-et-Marne en région parisienne. Il est placé en garde à vue, sans tir, avec le paiement d'une amende de 100 euros. Mais les policiers prennent son ADN qui matche avec une empreinte relevée en 1999 dans le cadre d'une enquête pour tentative de viol dans le même département. La police scientifique transmet alors l'information à la justice, mais rien ne se passe. La faute à un courrier, une simple lettre sans accusé de réception, jamais arrivée ou jamais traitée par le parquet de Meaux, croulant sous les dossiers et où des pièces disparaissaient régulièrement. Les premiers viols de Gisèle Pellicot débuteront l'année suivante, en juillet 2011, un an tout juste après l'arrestation de son mari dans cette première affaire.
L'inspection générale de la justice dit pourtant ne pas pouvoir conclure avec certitude un dysfonctionnement, ne sachant pas si ce fameux courrier a bien été reçu. Un terrible accident de la route la nuit dernière à Bonneville, en Haute-Savoie. Une fillette de 11 ans n'a pas survécu, 3 autres personnes grièvement blessées. Mélanie Tournadre, ils revenaient tous d'une fête d'anniversaire.
Ce papa ramène sa fille et deux de ses amis. Vers 4h du matin, ils quittent une salle des fêtes à quelques kilomètres seulement de chez eux. Mais lorsqu'ils arrivent au niveau du pont de Borne, leur voiture fait une sortie de route et tombe. Une chute de 4,50 m. Elle se retrouve sur le toit au bord de la rivière. Les pompiers engagent alors de gros moyens. Deux victimes sont coincées dans le véhicule. Il faut les désincarcérer. 4 ambulances sont aussi mobilisées. Mais malheureusement, la fillette de 11 ans décède. Son papa, âgé de 43 ans, est gravement blessé, ainsi que ses deux amis de 14 et 15 ans. C'est un choc immense pour le maire de Bonneville, Stéphane Valli.
C'est un drame terrible, hein, effectivement, pour toute la communauté bonnevilloise. On a une pensée, évidemment, pour cette famille bonnevilloise qui est touchée par le décès de cette petite fille de 11 ans et son papa qui est gravement blessé. On pense également aux deux personnes mineures également qui étaient accidentées et qui sont toujours hospitalisées. C'est malheureux, c'est vraiment terrible, terrible. On est traumatisé.
Le parquet de Bonneville a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires confiée à la brigade de gendarmerie de La Roche-sur-Foron qui attend les résultats des tests réalisés sur le père de famille pour savoir s'il avait bu de l'alcool ou consommé de la drogue.
Le plafond d'un appartement parisien du 11e arrondissement s'est effondré cette nuit alors qu'une cinquantaine de personnes y faisaient la fête. Une personne est gravement blessée, 16 autres ont été conduites à l'hôpital. C'est une première dans l'histoire du Salon de l'agriculture. Il n'y aura pas de concours général agricole bovin en raison de la crise de la dermatose. Mais la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, se veut rassurante ce matin en estimant qu'il n'y a pas de risque à amener des bovins au salon si les éleveurs le souhaitent, hors concours évidemment. Conséquence des fortes pluies qui tombent actuellement sur l'Aude dans le sud-est depuis hier soir. Les établissements scolaires de la maternelle au lycée vont rester fermés demain dans le département, ainsi que les crèches et les accueils de loisirs. La préfecture qui annonce également que toutes les manifestations sportives et culturelles sont annulées. Une réunion d'urgence sur la situation sur le Groenland aujourd'hui à Bruxelles. Hier, le président américain a menacé certains pays européens, dont la France et le Danemark, de relever leurs droits de douane de 10% avec les États-Unis à partir de février. Et ce, jusqu'à la vente définitive du continent arctique aux Américains. La ministre française des Armées, Alice Ruffo, estime ce matin qu'il s'agit là d'une forme de guerre économique. On passe au sport. Les Marocains qui sont dans l'angoisse, ils vont tenter de remporter leur Coupe d'Afrique des Nations ce soir, évidemment à domicile. Face aux Sénégalais, les Lions de l'Atlas et leur capitaine parisien Achraf Hakimi n'ont plus gagné cette compétition depuis 50 ans. La communauté marocaine de France est en ébullition. Zakaria est un franco-marocain amiénois, il a 32 ans et il a réussi à suivre toute la compétition sur place.
J'ai réussi à avoir tous mes tickets dès la première phase. Malheureusement, les amis n'ont pas pu en avoir. Parfois, je suis seul, mais sinon, je suis avec tous les Marocains. On est quasiment 65 000 dans le stade. On voit qu'il y a vraiment une unité, une union sacrée entre les joueurs et nous, les supporters. J'ai la place pour la finale. Malheureusement, tout le monde en cherche. Là, aujourd'hui, j'ai reçu une centaine de messages. Les acquéreurs essaient de me trouver des places, mais c'était pas évident. Même le marché noir, les gens, ils ont gonflé leurs prix à des prix inimaginables. J'ai le sentiment d'être un privilégié, d'être le porte-bonheur de la sélection nationale.
Alors, et pour ceux qui sont restés en France, eh bien, la finale est retransmise en clair et gratuitement sur la chaîne M6. Coup d'envoi à 20h.
Ma France, week-end.
C'est ici.
Et c'est à Tournes avec Ségolène, on parle cinéma avec vous les 13h05.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cinéma, ça tourne chaque dimanche pour vous révéler les coulisses de fabrication de nos films français, vous faire découvrir les métiers méconnus du cinéma. Et aujourd'hui, cap sur un chantier nocturne qui est au cœur de l'action du film Grand Ciel qui sort au cinéma mercredi prochain et qui nous plonge dans le quotidien d'ouvriers qui travaillent sur la construction d'une tour futuriste. Un chantier qui tourne mal lorsqu'un des ouvriers disparaît mystérieusement.
Vous ne l'avez pas vu depuis quand ?
Je pense que depuis 3 jours, il n'est pas là.
Faut aller voir les flics, non ? Mais les flics, ils s'en foutent, ça, sans papier.
Comment ça, tu sais pas où il est ?
C'est pas la première fois qu'un intérimaire se tire comme ça. Hein.
Les patrons, ils sont organisés, donc nous aussi, il faut qu'on soit organisés. Il faut qu'on se serve de ce groupe dès qu'il y a un problème.
Vous voulez qu'on se fasse tous virer ou quoi ?
Extrait du film Grand Ciel qui sort au cinéma mercredi prochain. Et pour vous en révéler les secrets de fabrication, le réalisateur Akihiro Hata, le comédien Damien Bonnard et la repéreuse Catherine Goffin sont nos invités. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et soyez les bienvenus. Damien Bonnard, c'est votre deuxième film de chantier en moins d'un an. Mmh. Vous jouiez déjà un ouvrier auprès de Jeanne Balibar dans Le Système Victoria sorti l'an dernier. C'est bon maintenant vous...
Non, j'étais pas ouvrier justement.
Vous étiez pas ouvrier? Ah oui, non,
là,
pardon, c'est vrai.
Classe.
Vous avez changé de classe.
Ouais. J'étais chef de chantier, là je suis ouvrier.
Oui, c'est vrai, vous étiez sur le chantier. Vous pratiquez le marteau-piqueur à la perfection.
Ouais, depuis
donc.
L'enfance. Ouais.
Non, mais c'est vrai, vous utilisez vraiment des outils de chantier, en tout cas sur votre ciel.
Oui, la question s'est posée au départ d'ailleurs de fabriquer des faux marteaux-piqueurs ou en tout cas d'enlever le mécanisme pour que ça soit plus facile parce qu'il fallait vraiment casser. Mmh. C'est vrai qu'on s'est un peu battu pour finalement faire construire des blocs de béton qu'on puisse percer pour de vrai. Parce qu'en vrai, mimer des gestes de marteau-piqueur, en tant qu'acteur, on est censé savoir faire des choses comme ça. À faire semblant, mais tout ce qui peut aider du réel, c'est quand même mieux, et puis à l'image aussi. Et du coup, on a fait des blocs de béton qui étaient transportables, qu'on pouvait casser pour de vrai, et du coup avoir les vraies vibrations. Puis en plus, il y a des maladies qui sont liées à ce métier. Enfin,
bien sûr.
Ceux qui font ça toute leur vie, ils ont... enfin, c'est assez horrible ce qui leur arrive. Donc, non, c'était bien de pouvoir vivre ça au maximum.
Oui, c'est ça. Donc, prime de risque. Est-ce que là, ouais. Au niveau des assurances, non, mais c'est vrai, non. Ça se pose la question pour les comédiens.
Pas pour ça, parce que là, on cassait 1 mètre carré. Donc,
Un souci de réalisme qui se retrouve jusque dans les comédiens et figurants. Akihiro, parmi les partenaires de jeu de Damien, vous avez pris aussi de vrais ouvriers du BTP.
Oui, pas en rôle. Mais dans l'équipe figuration, il y a eu beaucoup de gens qui travaillent vraiment dans le BTP, qui venaient après leur journée de travail sur notre plateau, parce qu'on tournait de nuit. Et donc oui, dans la figuration, il y a eu, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent vraiment dans le BTP. Après, en comédien, en rôle, non, c'est tous des comédiens. Voilà, on a fait des petits stages d'observation sur les chantiers, on a fait justement l'entraînement de marteau-piqueur, comment servir les outils. On avait un consultant de gens qui travaillent dans le BTP pour nous dire, pour nous apprendre des choses, quoi.
Ouais. C'était important pour vous, justement, d'avoir des vrais gens du métier. Eux aussi étaient heureux de se voir représentés au cinéma.
Ah bah complètement. Je pense que je pense que par rapport à ce que le film raconte, c'était hyper important que ces travailleurs-là qui sont quand même invisibilisés soient sur l'écran. Voilà, je pense que symboliquement, c'était important. Et la personne qui était chargée de la figuration était très engagée là-dessus. Mmh. Et donc c'était un vrai travail aussi d'aller chercher, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ne savent pas comment ça marche, évidemment. Et ce n'est pas des gens qui vont voir des annonces de figuration, des choses comme ça. Donc on est allé les chercher et il y en a certains qui ont accepté de jouer le jeu. Ouais.
Et vous avez donc tourné sur de vrais terrains de chantier ou il y a de la reconstitution ?
Alors il y a plusieurs chantiers. Et un petit bloc de construction. Donc le chantier qu'on voit dans le film, c'est un puzzle de plusieurs morceaux, complété en plus par ce qu'on appelle le VFX, donc les effets numériques, pour par exemple, créer l'arrière-plan qui n'existe pas dans les vrais chantiers.
Mmh. Ouais. Et là, je me tourne donc vers notre métier de l'ombre du jour, un métier méconnu, sans lequel il ne pourrait pas y avoir de décor dans les films. Catherine Goffin, vous êtes donc repéreuse pour le cinéma. À quel autre métier pourrait-on comparer ce poste ?
Alors, dans le cinéma, on pourrait dire le casting, qui parle peut-être plus au grand public.
Le casting des décors, quoi.
Donc, le casting des décors, quoi. Voilà. Mmh. Tout ce qui est tourné dans ce qu'on appelle des décors naturels, donc tout ce qui n'est pas tourné en studio, doit être cherché, trouvé. Et ces lieux deviennent des lieux de tournage qui deviennent à l'image des décors et qui sont évidemment, après ma mission, pris en main par une équipe de décorateurs, une équipe régie. Enfin, je donne le relais dès que ces lieux sont validés par l'équipe artistique.
Alors, avant de revenir justement sur votre métier, Damien Bonnard, en tant que comédien, est-ce que vous avez des liens avec la repéreuse ? Est-ce que vous connaissez d'ailleurs Catherine Goffin qui est à votre droite ?
Non, on s'est rencontrés hier, mais c'est un métier qui m'a toujours fasciné. J'en avais fait un tout petit peu pour donner un coup de main à un ami qui était repéreur à une époque, et c'était, moi, je trouve ça fascinant. Enfin, c'est dingue. On le faisait en moto, nous, de partir tout autour de Paris, par exemple, à l'époque, pour trouver un pont. Mais du coup, on en voit plein, mais trouver le bon qui semble en lien avec le film, qui soit praticable, enfin, c'est hyper riche comme métier. Et puis surtout de trouver des lieux qu'on n'a pas forcément vu avant et tout ça, mais donc c'est pas, mais nous, souvent, on arrive après, en fait. Mais comme la déco, ils sont souvent une longueur d'avance. Soit ils préparent le décor d'après, soit ils démontent l'ancien. Enfin, on se croise rarement. Mais c'est des métiers qui me fascine, moi.
Mmh. Le film Grand Ciel a été un challenge particulier pour vous, Catherine Goffin, car il fallait trouver des chantiers qui acceptent des équipes de tournage. Et pour ça, je crois que vous vous êtes passionnée pour le monde des chantiers. C'est-à-dire que vous êtes un peu un caméléon, vous faites des immersions pour trouver les lieux de tournage.
Exactement. C'est vrai que c'est la joie de ce repérage, c'est que c'est une recherche de décor qui est très atypique par rapport, on va dire, à un appartement ou... Je sais pas, une station-service. C'est un monde assez méconnu, y compris pour moi. Je m'arrête généralement, c'est un peu un défaut personnel et professionnel, au premier PMU du coin pour parler avec des gens qui peuvent le connaître d'une manière ou d'une autre. Et donc je mange en fait vraiment la matière du décor par tous les moyens.
Et donc, vous faites passer pour quelqu'un d'autre ou vous dites je suis repéreuse pour le cinéma ?
Alors ça dépend un petit peu l'enjeu diplomatique, on va dire. Mais effectivement, j'ai bien l'enjeu diplomatique parce que effectivement le cinéma, le BTP, vu les enjeux de sécurité et d'assurance qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que j'ai un peu un défaut de mettre beaucoup le pied dans la porte. Et donc, au départ, de pas dire qui je suis. Je me fais passer pour une étudiante en archi ou une photographe qui aime bien les lieux un peu interlope.
C'est génial.
Et donc, du coup, mon identité et mon métier disparaît jusqu'à ce que je maîtrise un petit peu le sujet, on va dire. Mmh. Et alors là, on va dire au niveau de la méthode, tous les moyens sont bons, quoi. C'est-à-dire que je dis que je connais le chef de chantier ou que j'ai oublié son nom et alors je m'invente tout un tralala, on va dire.
Ah, c'est une enquête, presque.
Oui, c'est une enquête. Tous les matins, je me dis, comment je vais essayer de faire avancer le schmilblick au plus vite? Et donc, tous les moyens sont permis. Donc, je lis le bar, beaucoup passer méthodiquement de temps sur Internet pour essayer de trouver le nom du prénom, du téléphone, du 06, du mail, pour essayer de gagner du temps, puisque évidemment, le temps dans le cinéma, c'est aussi un peu d'argent. Et donc, mon temps est compté pour essayer de trouver les décors assez vite. Donc voilà, c'est un métier assez passionnant. Et ce décor a été passionnant. Et il a fallu faire preuve de beaucoup de patience et de conviction pour nos interlocuteurs.
Et c'est quoi la panoplie d'une repéreuse ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre voiture ? Parce que vous êtes tout le temps en vadrouille.
Voilà. Je pense qu'il faut tout type de chaussures. Puisque, par exemple, dans une journée, si je cherche plusieurs décors à la fois, je peux autant me retrouver dans un lieu, dans un salon moquetté du 16e arrondissement, que dans un chantier. Donc
vous avez chaussures de chantier et talons aiguilles la voiture.
Oui.
Akihiro, comment ça se passe un tournage sur un chantier ? Qu'est-ce que ça implique par rapport à un décor entre guillemets normal de tourner sur un lieu pareil ?
Par rapport à ce que disait Catherine, c'était très particulier parce qu'on fait des repérages. Normalement, on fait des repérages d'un décor et on regarde, ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça me plaît, ça me plaît pas. Là, en l'occurrence, comme on fait des repérages de chantier. Le chantier, il change tous les jours, en fait. Donc, on faisait des repérages des décors qui évoluent tous les jours. Et donc, il fallait imaginer à chaque décor, chaque chantier. Bon, là, ici, il y aura deux étages. Là, il y aura une tour, mais il n'y en a pas encore. Donc, en vrai, c'est un travail que j'avais jamais fait, en fait, d'imaginer les décors. Mmh. Donc, c'est une sorte de... de repérage d'un décor à venir, quoi. Et donc ça, c'était très particulier. Je pense que j'ai jamais fait un truc comme ça. Et après, travailler dans un chantier, c'est particulier parce que effectivement, il y a des normes de sécurité. On tournait de nuit dans une sorte de labyrinthe où on pouvait se perdre.
Et puis il faisait froid, non? Damien Bonnard.
Hyper froid.
C'était ouais. Physique, non, ce tournage? Il s'en souvient pas.
Il faisait hyper froid. Le début de tournage.
Je suis galvanisé par le tournage. Et je suis passé devant le tournage de Chantier d'Ivry qui est terminé depuis, comme le film.
Ouais, ouais.
Je suis passé là il y a une semaine ou deux.
Les décors du film finalement n'existent plus.
Non,
exactement.
Sauf dans le film, donc c'est pour ça qu'il faut aller voir le film.
Et qui sort mercredi prochain au cinéma. Merci pour la transition. Damien Bonnard, notre invité en compagnie du réalisateur Akihiro Hata et de la repéreuse Catherine Goffin, qu'on retrouve pour la séquence Souvenirs sensoriels de tournage juste après U2 sur votre radio ici. Avec New Year's Day et tout de suite ça tourne sur votre radio ici.
Ici, avec Ségolène Aluni, ça tourne.
Avec l'équipe du film Grand Ciel au cinéma mercredi prochain, le comédien Damien Bonnard, le réalisateur Akihiro Hata et notre métier de l'ombre, la repéreuse Catherine Goffin, sont nos invités et c'est l'heure de la séquence souvenirs sensoriels de tournage. Damien Bonnard, quelle est l'odeur que vous retenez de ce tournage ?
Il y en a plein parce que. Sur ces chantiers, il y avait quand même plein de choses qui se passaient. en termes de son, en termes d'odeur, mais une de celles que j'avais notées, c'était l'odeur de la disqueuse, mais parce que j'aime profondément cette odeur.
Ah bon?
Bah les, quand on disque des métaux, là c'est des métaux de construction, c'est les métaux pour couler les dalles, mais le mélange de l'odeur de la ferraille et du disque à disquer, qui a une odeur spécifique, je sais pas, j'aime cette odeur, c'est une odeur entre fumée et brûlée, je sais pas comment, mais elle est agréable, mais depuis que je suis plus jeune, j'adore cette odeur.
Donc vous avez aimé ces moments de, ouais, de disqueuse. Akihiro Hata, quel son vous a marqué sur ce tournage?
Le son qui m'a marqué, bah, c'est nos voix, nos pas, nos déplacements qui résonnaient dans les couloirs, dans les sous-sols de chantier, qui revenaient en faisant les échos comme si c'était, ça venait d'ailleurs, quoi. Donc ça vous a vraiment, ça, comme c'est un peu l'ambiance du film, ça m'avait vraiment marqué. C'était en fait comme si on étant dans le chantier, on donnait vie à ce décor-là qui sont juste des bétons en fait. Voilà, nos respirations, nos pas, ça résonnait et ça revenait, et puis ça changeait de son et tout ça.
Catherine Goffin, quel accessoire retenez-vous de ce plateau de tournage?
Moi, je dirais les bottes
de chantier.
De chantier, ça fait écho à ce que raconte en plus le film. Moi, je pense que les bottes de sécurité, sur quoi ils marchent. Enfin, bon, bref, je vais pas spoiler le film, mais je pense que les bottes de chantier.
Qu'est-ce que vous avez le plus mangé sur ce tournage?
La poussière, on a mangé, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, voilà.
Ça, c'est vrai, ça.
Non, mais c'est vrai, comment? Parce que il y a des effets de fumée, des effets de poussière, etc. Comment vous les obtenez, ces effets-là?
Donc, c'est moitié, ce qu'on appelle essai fixe. Donc, ouais, les moitié vraies particules. Pas des vraies, bien sûr, c'est pas des poussières de béton. Mais il y en avait déjà dans le décor. Donc, il y en avait un peu, mais nous, on mettait des particules fines qui sont, on va dire, acceptables en termes de santé, comestibles, et un peu de fumée mélangée pour créer comme une ambiance. Et là-dessus, en fait, après, en post-production, après le montage, on a renforcé en fait ces effets-là par le biais numérique pour créer le résultat final.
Là, toi, tu parles, en plus, moi, c'est un truc qui compte quand même beaucoup sur les tournages, parce qu'il y a donc la différence entre VFX et SFX, donc des vrais effets spéciaux en direct, et ce fait numériquement. Et en vrai, quel bonheur de les avoir en vrai sur le plateau. C'est comme de jouer dans des fonds verts, c'est cool, mais c'est quand même, il n'y a pas grand-chose à attraper. Et là, de voir les fumées carboniques, je sais plus comment ça s'appelait. Oui, c'était hyper beau, c'était même fascinant à voir. Et puis après, il y avait effectivement les poussières.
Les petites particules, ouais.
Donc, t'avais un certain plaisir, toi, à en venir en rajouter. T'avais ton petit soufflet.
Chut, ouais.
Il y a des scènes où il était vraiment particulièrement sur ce poste.
Akihiro Hata, avec quoi avez-vous envie que les spectateurs repartent après avoir vu votre film?
Bah, qu'à chaque fois qu'on passe devant les chantiers, qu'on repense à ces histoires-là, je pense, d'imaginer du coup la vie de ceux qui construisent les bâtiments qu'on utilise ou qu'on dans lequel on dort, on vit, on travaille. Je dis un truc hyper banal, mais j'ai envie que le film permet de voir le monde un peu autrement.
Sans dévoiler non plus, parce que ça va être bien de pouvoir découvrir ce film, mais non, je pense en tout cas l'idée de peut-être se poser réellement la question, des fois, de est-ce qu'il faut courir après des paradis qu'on nous propose et vers lesquels il faudrait aller, c'est pas certain. Voilà, faut juste réfléchir à ça, mais...
Eh ben, on va réfléchir à ça dès mercredi prochain, en allant voir Grand Ciel. Bravo pour ce film, Akihiro Hata. C'est donc au cinéma et c'est avec Samir Ghesmi, Mouna Soualem et Damien Bonnard, pour ne citer que. Merci d'avoir été avec nous, Damien.
Merci.
Et merci infiniment, Catherine Goffin, de nous avoir présenté ce métier passionnant, celui de repéreuse pour le cinéma. Ça tourne, ça revient la semaine prochaine. Notre invité sera Pierre Ninet, en compagnie du réalisateur Yann Gozlan pour le film Gourou. Bel après-midi à l'écoute de votre radio, ici.
L'hiver s'étire et vos valises rêvent secrètement de retrouver le soleil.
Voyage, voyage!
Pas de panique! Écoutez, ici, dès le 26 janvier, on vous offre 10 000 euros de vacances. 12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33. Go!
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise, vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté, mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous ! Si on sait assurer votre auto ou votre domicile, nos conseillers vous proposent aussi des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui, en plus en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama.fr.
ICI.
ICI.
Vous écoutez ICI.
ICI.
Voici Expression Directe, une émission réservée aux formations politiques, aux organisations syndicales et aux groupes professionnels représentatifs. Aujourd'hui, cette émission est assurée par l'UNAPL.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous consacré à l'actualité des professions libérales. Nous recevons aujourd'hui Denis Reynal, président de l'UNAPL, l'Union Nationale des Professions Libérales. Bonjour Denis Reynal.
Bonjour.
Denis Reynal, votre mandat de président de l'UNAPL a débuté il y a presque un an. Que retenez-vous de cette première année de mandat ?
C'est une année très dense, surtout extrêmement mobilisatrice. Ce que je retiens avant tout, c'est l'énergie collective. Dès le début du mandat, nous avons voulu travailler avec une équipe forte, engagée, qui reflète la diversité des professions libérales. Cette première année nous a permis de poser plusieurs caps et de mettre en mouvement. Nous avons renforcé notre union et notre force collective en continuant de porter la voix des professions libérales auprès des institutions, des pouvoirs publics, et nous avons élargi nos rangs, passant à 69 organisations membres. Et ce n'est pas terminé. C'est tout le sens de notre cap 100 pour 100 organisations membres. Nous allons par ailleurs poursuivre nos deux autres caps, entreprise libérale augmentée, PL demain, afin de préparer les entreprises libérales aux défis du futur, qu'ils soient économiques, sociaux ou technologiques.
2025 a justement été marqué, Denis Reynal, par des transformations profondes dans votre secteur. Est-ce que l'on peut dire que les professions libérales sont aujourd'hui à un tournant ?
Oui, très clairement. Nous vivons un moment charnière. Les professions libérales connaissent un double virage, économique et technologique, qui redéfinit profondément les conditions d'exercice et qui, en définitive, questionne leur identité. Inflation, hausse des charges, instabilité fiscale et sociale, mais aussi financiarisation de certains secteurs qui viennent bousculer les équilibres traditionnels. Dans le même temps, nos métiers évoluent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et les besoins de nos clients et patients changent. Cela nous amène à nous adapter rapidement, sans jamais renoncer à ce qui fait notre ADN, l'indépendance, la responsabilité et l'humanisme.
Vous évoquiez la financiarisation et l'évolution des modes d'exercice. C'est un sujet qui suscite parfois de l'inquiétude chez les professionnels. Qu'est-ce que vous en retenez ?
La financiarisation n'est plus une hypothèse, elle est déjà une réalité dans certaines professions. Elle répond à des besoins de financement, notamment pour investir ou se développer, mais elle appelle aussi une vigilance accrue. L'enjeu est clair, garantir que ces évolutions ne remettent pas en cause l'indépendance du professionnel libéral, finalement son libre arbitre. Parallèlement, on observe une diversification des formes d'exercice, les sociétés, les regroupements, les plateformes, l'exercice mixte, etc. Cette pluralité peut être une richesse à condition qu'elle respecte le cœur du modèle libéral. Et nous travaillons actuellement avec la Direction générale des entreprises sur ce sujet.
Pendant cette première année de mandat, l'UNAPL a aussi travaillé sur les enjeux numériques et de l'IA pour les entreprises libérales.
Le numérique et l'IA sont aujourd'hui les leviers structurants pour l'entreprise libérale. L'intelligence artificielle ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme un outil professionnel. Elle peut permettre de gagner du temps sur des tâches chronophages pour nous recentrer sur l'expertise et la relation humaine. Mais cette révolution doit être accompagnée et encadrée. L'innovation, pour être un progrès, doit rester au service du professionnel, jamais devenir une contrainte subie.
Ces transformations sont aussi sociétales, les attentes des clients, des patients, mais aussi des jeunes professionnels évoluent fortement, Denis Reynal.
Absolument. Les Français attendent plus de proximité, de simplicité, de responsabilité. Les jeunes professionnels, eux, recherchent du sens, de l'autonomie et un modèle d'entrepreneuriat plus équilibré. Le secteur libéral peut répondre à ces aspirations à condition de mieux accompagner les parcours et de renforcer le collectif. C'est le rôle des maisons des professions libérales, de la dynamique Jeune PL, mais aussi de nos travaux sur la parité, l'égalité ou encore l'environnement. Nos 1,7 million de professionnels libéraux sont un pilier de lien social dans les territoires.
Toutes ces mutations, Denis Reynal, seront au cœur du prochain Congrès national des professions libérales organisé par l'UNAPL.
Oui, le congrès sera un temps fort de la vie de notre mouvement. Nous avons choisi un thème volontairement ouvert, profession libérale demain, où allons-nous ? L'objectif est de regarder lucidement les transformations à l'œuvre, d'en mesurer les opportunités comme les risques, pour construire collectivement des réponses. L'accélération des mutations ne doit pas nous faire peur, bien au contraire, elles doivent nous donner l'élan de nous réinventer ensemble, sans perdre nos valeurs fondatrices.
Merci Denis Reynal d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc le vendredi 13 février au Palais d'Iéna à Paris pour ce congrès national des professions libérales. Les inscriptions sont gratuites sur le site congrès-unapl.fr.
C'était Expression Directe avec l'UNAPL. Ici Lorraine, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Lorraine, tous les jours à vos côtés.
À la nuit de chaque heure, une information pour savoir ce qui se passe près de chez vous, dans votre secteur. Même si c'est loin, à une heure de route, bah vous apprendrez des choses. Par exemple, à Étanche Grande, il y a une réserve naturelle qui n'est pas très connue. Elle est à la sortie de la ville. Lorsque vous allez vers le Luxembourg, il y a une grosse statue en pierre qui représente un escargot. Et ben, c'est l'entrée de la réserve naturelle. Ici, quand vous passez sur les chemins, vous finissez par arriver sur une sorte de grand canyon. C'est super instagrammable. Et en plus, il y a la maison de la nature et du tourisme qui vous propose tous les après-midi jusqu'à 17h une exposition pour apprendre à reconnaître les silex. Avec les enfants, les petits-enfants, ça peut être sympa. Hein. Ils vont vous apprendre également tout ce qu'on peut trouver de l'ère jurassique en Moselle. Il y a plein de choses, il y a des trésors dans nos forêts. Hein. À faire tous les après-midi de 9h à 17h, de 10h à 18h en semaine et c'est à la sortie d'Étanche Grande à la Maison de la Nature et du Tourisme quand on va vers le Luxembourg. Bonne route, bon après-midi, on est avec vous.
Ici Lorraine.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Celui qui chante son histoire, a notre histoire au fond de lui. Celui qui chante rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sans sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante, celui
Ici.
I-C-I.
Ici Lorraine.
Ici.
We will fight. Impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running. Eyes closed in the dark. Headed for all full speed. Oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame.
Autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle.
façon, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Traveling sur un corbillard qui passe sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Ici Lorraine.
Le Lorrain du jour.
Elle a longtemps dirigé une entreprise industrielle avant d'écouter une passion qui la suivait depuis l'enfance. Pendant le Covid, elle se remet à cuisiner, passe un CAP pâtisserie et change complètement de vie. Aujourd'hui, la Sarreguemines est à la tête avec le chef pâtissier doublement étoilé Nicolas Multon d'un comptoir gastronomique haut de gamme en plein cœur de Strasbourg. Bonjour Karine.
Bonjour Jérémy.
Vous avez longtemps été chef d'entreprise. À quel moment vous vous êtes dit « ça y est, je change de vie » ?
Pendant le Covid, en fait, quand j'ai commencé à avoir mes salariés qui mangeaient tous les jours des fast-food, chacun dans leur coin, que les restaurants ont fermé, ça nous a beaucoup, beaucoup manqué. Et j'ai commencé un peu à me dire, ben, on va se faire des repas. Et je vais commencer à cuisiner des choses saines, pour que, en fait, des légumes, des choses comme ça, pour que les gens puissent se retrouver avec plein de personnes.
Passer un CAP pâtisserie quand on a déjà un poste à responsabilité, c'est pas banal. Qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer pour vous ?
C'était en fait mon absence dans l'entreprise. Donc j'ai laissé les clés, j'ai demandé à mes anciens salariés si je pouvais partir. Je leur ai dit voilà, je suis joignable par téléphone, mais je voulais aussi que mes stages se passent bien. Donc en fait, je commençais à 6h du matin jusqu'à 14h dans une boulangerie où j'ai fait mon stage pour apprendre. Et après, je reprenais mon poste à J.D. Bois-Bati Coleman. Et c'est vrai que j'ai eu le soutien de tous mes salariés qui ont vraiment eu cette gentillesse de prendre les responsabilités, de me dire les messages après. Et au contrepartie, après, je leur ramenais plein de gâteaux, de viennoiseries. Sympa. Ils étaient doublement contents. J'ai eu leur soutien.
La rencontre avec Nicolas Multon, vous en parlez comme d'une évidence. Qu'est-ce qui a fait que ça a tout de suite matché entre vous ?
Je me suis retrouvée à faire un stage à la Villa René Lalique. Pour moi, c'était une grande chance. Et j'ai beaucoup apprécié en fait le travail, la minutie des desserts, ce travail qu'on fait, l'exigence pour le client, le service. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé et Nicolas m'a beaucoup appris.
Votre expérience de dirigeante, c'est ce qui vous a permis de garder la tête froide dans les moments un peu compliqués ?
Oui, tout à fait, puisque là, on a monté un projet, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y avait tout à reprendre à zéro. Ça veut dire revoir les banquiers, revoir la partie administration, faire des travaux de 5 mois, trouver à nouveau des partenaires. Et donc là, on a ouvert une pâtisserie-restaurant donc à Strasbourg, donc c'était vraiment plein de choses à refaire.
Vous faites sans arrêt l'aller-retour, Karine, entre la Moselle et Strasbourg. Vous avez encore besoin de garder ce lien avec votre territoire ?
J'ai ma maison, j'ai mes amis, j'ai mes proches. Et je trouve ça très enrichissant, justement, d'avoir les deux. De pouvoir rentrer chez moi avec mon cocon, avec mes chats, mes chiens, ma fille. C'est un grand confort pour moi. Et puis de pouvoir repartir dans cette belle ville de Strasbourg, qui pour moi est vraiment magnifique, d'être près de la cathédrale. Et il est vrai, le matin, quand je viens à 6h du matin, voir cette belle cathédrale et de voir toute la ville et de rencontrer les personnes qui font vivre cette ville, je trouve ça merveilleux. C'est très agréable.
Karine Clément, un grand merci d'avoir été notre Lorraine du jour. Et puis à très bientôt pour goûter les spécialités du comptoir à Strasbourg.
Avec grand plaisir, plein de bonnes choses et à très bientôt.
Ici Lorraine.
Et
quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Mais tu as tant de charme, que c'est là mon âme. Car je suis sans arme lorsque tu es là. Je voudrais te le dire, je voudrais l'écrire, mais je n'ose pas te parler de ça. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Tu fais des ravages, je manque de courage pour te déclarer toute la vérité. Je prépare mes discours pour te faire la cour, mais je peux plus bouger quand tu es à mes côtés. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi.
La salsa,
souvent je frissonne quand me vient l'idée de te rencontrer. Je n'ai pas confiance, je manque d'assurance et je fais semblant de jouer les indifférents. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix,
you'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the the loneliest.
Bon week-end avec Ici Lorraine.
Ici, on aime les concerts.
La semaine prochaine, Ici Lorraine vous offre vos places VIP pour assister au concert d'Indochine.
Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama.
Vous n'êtes pas sur le chantier, Arnaud ?
Oula, non, Cerise. Je viens de raccrocher avec un conseiller pour les sinistres de mon entreprise de plomberie. Et là, je dois en appeler un autre pour l'assurance scolaire de ma fille.
Ça en fait des appels pour être un bon père et un bon patron.
Ah ouais, je mélange tout. Je vais finir par prendre une assurance scolaire à un de mes employés si ça continue.
Rassurez-vous, Groupama est là. Votre conseiller unique gère vos contrats pro et perso avec une vision globale de votre situation.
Oh, ça va me changer la vie, Cerise.
Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Ici Lorraine, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
C'est pas perdu puisque tu m'aimes. Moins fort un peu quand même. Je suis ta solution sans problème. Gadget évident. Mais toi maintenant, tu veux plus en jouer. Il faut me garder et m'emporter. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps. M'emmener au cimetière des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Cracher, juré. Quand je serai vieux, je te ferai le plan. Chercher le cimetière des éléphants. Des souvenirs quand on les jette, qui reviennent sans faute dans les maux de tête. Faut pas que je pleure pour que tu me regrettes. Quand tes sentiments, je suis pas pire qu'avant, solvable à mi-temps. M'emporter. Je sais que j'ai plus le droit au crédit renouvelé. Je suis dans le safari partant. Mourir au cimetière des éléphants. Il faut me garder et m'emporter. Je suis bon à consommer. presse pas, tu as tout le temps.
Ici Lorraine, il est 14h.